Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Bruno Picard.
Bonne écoute.
Ce matin, nous commençons une série sur le mariage. Et l'idée, c'est que dans quelques semaines, nous poursuivrons la série avec des enseignements sur la famille. Le problème que nous avons avec ce genre de messages, c'est que ce sont des messages très pragmatiques. Et donc, il faut les mettre en pratique pour qu'ils puissent fonctionner. Il ne suffit pas de venir à l'église et d'écouter le message. Il faut, dès le moment où tu le reçois, commencer à le mettre en pratique, même si cela est difficile. Ça vous va? Deuxième point important, je vais peut-être aujourd'hui heurter quelques sensibilités. Parce que je vais partager par la vérité du thème, tout le monde ou presque se sentira concerné. Je tiens à le dire, je ne vise personne. Je ne vise pas les couples en difficulté. Je ne cherche pas à vous rendre coupable de choses qu'on a fait dans le passé. Simplement, je cherche tout mon cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, à vous aider à transformer le mariage d'aujourd'hui en un mariage béni, un mariage accompli, un mariage selon le cœur de Dieu. Amen. Ça vous va? Et la troisième chose à faire, c'est de vous dire, si vous sentez que votre mari ou votre femme est coupable de ce que je vais partager ce matin, pardonnez. Dites pas, hein, m'avait déjà où ça? Dites pas ça. Ok? Si vous sentez que votre femme est concernée par ce que je vais partager, prenez sa main et dites, chérie, je suis avec toi. Tu vas changer. Tout le monde est d'accord? Donc, répète après moi. Dites, je commence cette série avec joie. Et je suis positif dans ce que Dieu va accomplir. Amen. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9. Et le titre de mon message et de ma série, c'est « Construire son mariage pour durer ». Ecclésiaste 9, 9 dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie ». Éphésiens 5, versets 21 et 30 à 33 dit « Et parce que vous révérez Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et vous, femmes en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toute circonstance à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il, Christ, le mari, a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté. Tout le monde dit rayonnante de beauté. Sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Tout le monde dit quitter. Son père et sa mère pour s'attacher. Tout le monde dit s'attacher. À sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Il y a un grand mystère. Je parle ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Hébreux 13, verset 4 nous dit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, ce matin, nous touchons à un sujet extrêmement important. Si tu es marié, ce sujet va t'aider. Si tu es célibataire, si tu es divorcé, si tu veux te remarier, et pour ceux et celles qui ne veulent pas du tout se marier, pensant que l'autre est toujours l'ennemi, cette série est aussi pour vous. Et j'espère que vous allez pouvoir prendre quelques principes durant le mois de mars qui vont vraiment vous aider, comme ils nous aident, Elodie et moi en ce moment, à avoir un mariage béni. Je suis un homme béni. J'ai un mariage qui est de plus en plus extraordinaire. Et j'ai un mariage qui grandit chaque semaine. Parce que mon épouse est une femme de Dieu qui cherche le cœur de Dieu. Amen. Et je souhaite aujourd'hui à tous les maris de vivre cela. On va se concentrer ce matin sur le mariage avec le modèle d'origine. Vous savez, tout ce que Dieu fait, à la base, est parfait. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfait du premier coup. Il n'essaie pas de dire, mince, je me suis trompé. Dans le cadre du mariage, Dieu nous a laissé un modèle biblique, un modèle parfait. Dieu a placé, écoutez bien cela, le premier mariage, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Où était le jardin d'Éden? Que symbolise le jardin d'Éden? Le paradis, l'atmosphère céleste. J'aimerais ce matin vous encourager et vous dire qu'il est possible pour chaque mariage à Hosanna d'expérimenter l'atmosphère céleste, l'atmosphère du paradis dans le mariage.
Oula.
Il est possible que votre mariage fasse l'expérience au quotidien de l'atmosphère que Dieu avait prévue pour Adam et Ève avant la chute. Amen. Dieu veut que nous ayons une vie d'unité et de paix dans le couple. C'est extrêmement important. Si ton mariage n'est pas en bonne santé, alors ta famille ne pourra pas être en bonne santé. Et si les familles ne sont pas en bonne santé, l'église ne sera pas en bonne santé. Inutile de te dire aujourd'hui que le vrai toi, se trouve chez toi. Celui ou celle que tu es réellement, c'est celui ou celle qui vit tous les jours, au quotidien, dans la maison, dans sa famille. Et quand quelqu'un va au bureau, il est toujours joyeux, toujours heureux, casse des blagues, dit bonjour, mais chez lui, il est triste, malheureux, dépressif, énervé, en colère. Le vrai toi, ce n'est pas le toi qui rigole au bureau, le vrai toi, c'est celui qui pleure chez lui. Et mon rôle est de ramener tous ceux et celles qui sont en train de souffrir dans la maison et de vous ramener dans une dimension de paix et de joie, parce que si chez toi, c'est le bonheur, tout ailleurs sera le bonheur. Mais si chez toi, c'est l'horreur, tout le reste, c'est l'horreur. Il est très difficile, corrigez-moi si j'ai tort, mais après 15 ans de ministère maintenant, ou 10 ans de pastorat, je me suis rendu compte que tu peux avoir une Porsche, tu peux avoir une superbe maison, tu peux avoir deux superbes chiens, tu peux avoir un super chat, tu peux avoir les finances à gogo sur ton compte, tu peux avoir des cartes Mastercard, Premium, Supium, Coupium, Choupium. Tu peux avoir la Gold American Express. Tu peux avoir la Gold, la Vital Gold. Tu peux avoir tout ça. Mais si chez toi, c'est la dispute tous les jours, si tu n'as pas confiance en ta femme, si ta femme n'a pas confiance en toi, alors tu es le plus malheureux des hommes. Mais Dieu est capable de changer n'importe quelle situation dans n'importe quelle famille. Il est capable de changer n'importe quel mariage, de le transformer de l'état zéro à l'état de héros. Aïe, aïe, aïe. Il y a trois choses que j'aimerais faire aujourd'hui dans ma série. Un, vous encourager à comprendre que le mariage est extrêmement important. Deux, vous convaincre qu'il est possible d'avoir un mariage divin. Et trois, vous lancer un défi et vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez dans le mariage. Mon rôle n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Mon rôle est de vous encourager à prendre les principes de la parole de Dieu et ensemble à les appliquer chaque jour, jour après jour. On ne peut pas changer en un jour, mais on change chaque jour. Et mon rôle est de vous aider ce matin, donc soyez attentif, à changer votre mariage. Dans ce lieu ce matin, il y a des divorcés, il y a des mariages de plus de 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans. Qui est marié depuis 40 ans? Waouh! Waouh! Bien joué! Amen, ouais! 20 ans, plus de 20 ans de mariage. Très bien! Oui, plus de 10 ans de mariage. Plus d'une semaine de mariage. Bah, tout le monde lève la main. On commence, vous êtes prêts? Ceux et celles qui veulent se marier, surtout Jérémy et Lauriane, je vous ai à l'œil avec mes deux yeux. Ceux qui veulent se marier, écoutez bien cela. Le message de ce matin est important pour vous tous. J'aimerais, entre parenthèses, donner un point important. Aujourd'hui, pasteur Steve et moi-même et nos épouses, l'équipe pastorale, nous ne pouvons pas garantir que nous marierons tous les couples de l'Église, surtout quand les couples choisissent d'abord la date du mariage, choisissent la mairie, réservent la mairie et après viennent nous voir pour que nous on les marie. Nous ne sommes pas là pour passer après tout le reste. Si vous voulez un mariage béni, vous voulez nous voir avant. Nous travaillons ensemble sur plusieurs mois. Nous installons les principes de la parole de Dieu. Nous travaillons sur votre couple avant le mariage. Et quand vous êtes prêts, vous vous mariez. À la réunion, on fait l'inverse. On prend une date de mariage, hop, 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 on vient voir le curé ou le maire. Hop, 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 maire, curé, bénissez-moi, enfin le pasteur, bénissez-moi, c'est bon, on est béni. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, je me réserve le droit de refuser de marier des couples si je n'ai pas la paix. Amen. C'est important. Parce qu'on nous fait trop souvent le coup, on vient nous voir, pasteur, mariez-moi, parce qu'on est prêt. Attends, je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous êtes prêt. Parce que mon intérêt, c'est votre intérêt. Et votre intérêt, c'est un mariage béni. Mon petit frère Jérémy va passer par le feu de la préparation avec son grand frère. On va le préparer pour qu'il ait un mariage solide, pas après 10 ans de mariage, dès la première semaine. J'aimerais vous épargner ce que le dimanche nous avons vécu. Prendre 6 ans pour commencer à mettre des bonnes bases, c'est trop long. Ok ? Donc ne venez pas nous voir en disant « Pasteur, on se marie le 13, vous êtes libre ?» Non, je ne suis pas libre. Faut rigoler, mais on fait souvent le coup. Mon Astève. C'est bon, le maire a dit « Oui, on est prêt le 14 février. On est le 13 février, je te prédis. C'est demain ton mariage. » Bah oui, bah, tu savais... Non. Premièrement, tout le monde dit premièrement. Au commencement, tout le monde dit au commencement. Il faut, écris ça sur ta feuille quelque part, écris sur ta main, il faut revenir au modèle du commencement. Pour réussir ton mariage, il faut te poser la bonne question. Est-ce que mon mariage ressemble au mariage que Dieu a prévu au commencement ? Donc, Genèse 2, verset 7 nous dit « L'Éternel, Dieu façonna l'homme. » C'est pour ça que je suis beau. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est que je crois en ce que Dieu m'a donné. Je n'ai pas dit le plus beau. Je suis beau. J'aime mon grand nez aujourd'hui. J'étais un petit peu inquiet cette semaine. J'ai écouté une émission sur la biologie et le corps humain. Il paraît que dans la croissance du corps humain, les oreilles et le nez grandissent toute la vie. Je dis, Seigneur Jésus, je n'ai pas rendu. Je dis, Seigneur, ça va être chaud. Cela étant dit, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. C'est sérieux, je suis vrai, Steve, c'est vrai quoi. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Et il lui insouffla dans les narines le souffle de vie. Première chose importante ce matin, Marie, est-ce que tu contiens le souffle de vie de Dieu ? Deuxième chose, est-ce que tu comprends, toi, Marie, que tu es poussière ? Reste humble. Je lisais un article cette semaine sur les hommes et les femmes. La première différence, là j'ai ri là. La première différence de taille entre l'homme et la femme, Fred, tu sais quoi ? L'orgueil. Il est prouvé que l'homme, par définition, est plus orgueilleux et plus fier que les femmes. Qu'est-ce qu'il y a ? Cela est important parce que, écoutez bien ça, je vais dans le flow là, écoutez bien ça. Si la femme ne comprend pas que l'homme, par nature, est fier, elle ne pourra pas savoir comment l'encourager. Un homme, pour être encouragé, a besoin de savoir qu'il est ton héros et pas ton zéro. Dès l'instant où tu dis à ton mari, tu es un zéro, tu brises la confiance de l'homme et tu ne peux pas avoir un homme dans la maison. Ah. Et donc, Dieu a mis dans le code génétique le fameux Y. Yes. Yahoo. C'est moi l'homme. Et le cliché qu'on essaie de briser aujourd'hui, surtout en France, avec le mouvement féministe, je ne suis pas contre les femmes, bien au contraire, mais j'estime que c'est dangereux de vouloir ramener les hommes au rang de femmes ou à la place d'une femme, pour ne pas choquer les gens. Attendez, les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Il y a des différences extrêmement importantes. L'homme doit comprendre ce matin qu'il a été fait par Dieu un être vivant qui était fait par Dieu le premier, Dieu l'a façonné. Verset 9, l'Éternel fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Écoute bien ça ce matin. Dieu crée l'homme, il le place dans un jardin. Dans le jardin, il met deux arbres spécifiques en plus. L'arbre de la vie et l'arbre du choix du bien et du mal. Et il dit à l'homme, tu es responsable du devenir de ta famille. Il dit à l'homme, tes choix vont affecter ta famille. Et Dieu, et c'est un conseil que je donne à tous les jeunes, jeune homme, ne te marie pas si tu n'as pas une vision précise de ce que le mariage, de ce que Dieu attend de toi. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, ta femme non plus ne saura pas où tu iras. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu prendras n'importe quel chemin et ta famille va souffrir des conséquences d'un homme instable, qui n'est pas mature et qui ne sait pas ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est pour ça que je crois que l'âge n'est pas important dans le mariage, mais la maturité, oui. Il y a des couples, des jeunes hommes, à 21 ans, ils ont l'âge de se marier. D'autres, il faut attendre 49 ans. C'est comme ça. Il y a des hommes que je marierai moi personnellement quand ils auront 82 ans. À moins qu'ils changent avant. L'Éternel, écoutez bien ça, l'homme, verset 15, l'Éternel, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Écoutez bien ça. Et pour le garder, Dieu, le plan d'origine, Dieu a pris l'homme, l'a placé dans le paradis, le jardin d'Éden, l'atmosphère céleste, pour la cultiver et pour la préserver. L'un des premiers rôles d'un homme dans un mariage réussi, c'est quand un homme dit, je vais cultiver l'atmosphère céleste dans ma famille et préserver cela. La bonne nouvelle, c'est que chaque homme est capable de le faire si nous voulons le faire. Oh, pas d'amen ce matin? Et verset 16, l'Éternel ordonna à l'homme, mange librement des fruits, vous connaissez l'histoire, sauf du fruit de l'arbre du choix, comme vous savez, il n'a pas écouté. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu fait tout parfait, il fait le jardin, il fait les arbres, la création, les animaux, il place Adam dans le jardin, Adam passe son temps à nommer tous les animaux, de la fourmi en passant par l'orque. Il faut y aller, hein. Et il y va, il donne les noms, et puis il y a un problème. Tous les gars, enfin, tous les animaux sont par pair, sauf moi. Et il cherche une girafe, non, ça passe pas avec moi. Et il cherche un taureau, c'est pas non plus. Et il dit, c'est pas possible. Il est tout seul. Dieu lui donne une atmosphère extraordinaire. Le jardin d'Éden. Dieu lui donne des arbres extraordinaires, une mission, une vision, une stratégie. Dieu lui donne tout. Et Dieu lui dit, mais tu es seul, ce n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide. Tout le monde dit aide. Aide. Une aide semblable à qui? Quand je critique ma femme, je me critique moi-même puisque c'est une aide semblable à moi. Et quand j'exalte ou j'exulte ou je célèbre ma femme, je me célèbre moi-même puisque je célèbre l'aide qui est semblable à moi. Un jour, j'écoutais ce pasteur qui est un pasteur qui est un expert en relations. Un homme vient le voir, non pardon, une femme vient le voir, elle lui dit, pasteur, j'en ai marre de mon mari, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça mon mari. Et bien, elle y va. Au bout d'un quart d'heure, le pasteur fait, ok d'accord, mais qui l'a choisi? Et ben voilà. Le problème, c'est que lorsque tu critiques un mariage, ton mariage, tu ne le changes pas. Tu le détruis encore plus et plus vite. Et quand tu regardes ton mariage en face, et c'est le but de notre série, et que tu commences à travailler réellement et sincèrement, tu t'assois, tu notes les problèmes, et dans l'amour, tu vas attaquer chaque problème l'un après l'autre, dans le temps de Dieu, Dieu changera ton mariage. Donc voilà, l'homme, Adam, qui, tranquille dans le jardin, donne les noms à tous les animaux domestiques, du ciel, des animaux sauvages, et il trouve aucune aide qui soit à son vis-à-vis. Verset 21, dans Genèse 2, la parole de Dieu déclare « Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena à l'homme. » Et là, verset 23, « L'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Ouais, mon œil, ouais, on verra ça un instant. Il n'a pas dit ça, c'est pas grave. C'est pourquoi un homme se sépara de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. J'aime bien me dire que lorsque un couple est en bonne santé, l'homme et la femme peuvent se mettre à nu devant l'un et l'autre. Je parle dans l'esprit, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à se cacher puisqu'on est vrai l'un envers l'autre. Pas d'aucune honte. Un mariage Écoutez bien ça, un mariage réussi est un mariage qui ne connaît pas la honte dans le couple. Si tu as honte de parler à ta femme, c'est qu'il y a un souci. Si tu as honte de parler à ton mari, c'est qu'il y a un souci. Il faut le résoudre. Il y a un problème, il y a un manque de communication, un manque de vérité. Donc Genèse 2.21 nous dit que Dieu prend l'homme, l'anesthésie, le charcute, crée la femme. Et l'homme vient, et dans la version française, les traducteurs ont eu un peu peur. Ils ont dit, voici eau de mes eaux, chair de ma chair. Je vais vous donner c'est quoi le mot hébreu, vous êtes prêts? Quand Adam a vu Ève, le vrai mot hébreu c'est maintenant. Attends, voici la scène. Adam est nu. C'est les enfants. Adam est nu et Dieu crée Ève. Dieu crée Ève. Et Ève apparaît nue devant Adam. Oh, oh, de mes os, chair de ma chair. Mon nez, ouais. Il a fait, c'est maintenant, emballez-la à la maison, on y va. Voici le vrai sens d'Adam. Viens, on va à la maison, je t'épale, je m'amuse, c'est ma femme, on y va. Il n'y a pas de, oh, de mes os, chair de ma... Non, il a fait, waouh, voilà, c'est pas une girafe, c'est pas un zèbre, c'est une femme. Puis il y a des canons, regarde ça, le doigt pied magnifique, les gars, ça c'est bon. Le gars est enthousiaste, comme tous les débuts de mariage. La plupart des hommes qui se marient disent, waouh, c'est elle, c'est maintenant, c'est elle, j'ai hâte. S'il fait, bon, allez, viens, on se marie demain, allez, viens. Bon, je dis oui, ce soir, nuit de noces, allez, on y va. Non. Le gars est dans le monde, là-bas, perché, en train de faire, waouh, c'est maintenant. Le mot hébreu ne dit pas, oh de mes os, chair de ma chair. Il dit, waouh, c'est maintenant. Tout le monde suit? Mais comment se fait-il qu'on passe du « waouh, c'est maintenant, déballé, j'arrive, chérie, prépare-toi » au stade « bon, une fois que c'est déballé, retourne à l'envoyeur. Hein. » Au départ, on dit « waouh, vas-y, j'embarque, comme un petit McDonald's, j'embarque à la maison, c'est à consommer. » Une fois que retourner à l'envoyeur, pièce défectueuse. Après 2 ans, 3 ans, tout d'un coup, la pièce d'œuvre d'art est devenue une pièce défectueuse. J'ai dit autre chose, mais c'est trop dur. Une pièce défectueuse. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on passe de l'art au lard? On rigole, mais c'est vrai, quoi. On se critique, ah, t'as grossi, t'as maigri, t'as ceci. Et au départ, c'était waouh. Comment faire ce matin pour que les membres de l'église Hosanna puissent toujours dire waouh? Ce que Dieu et moi on veut, ce que Steve et Sarine veulent pour vous ce matin, c'est quand tu te lèves, tu continues à dire waouh, et ça ne repose pas sur le physique. Parce que des fois tu vas dire waouh, c'est normal. Écoutez bien ça ce matin. 4 principes pragmatiques. C'est le premier message, la série va être assez longue, 4 dimanches d'affilée le matin où on va creuser. C'est que le premier message, on va être très cool ce matin, mais ça va aller dans les profondeurs de vos entrailles. Et là, j'espère par la grâce de Dieu qu'au bout d'un mois, votre couple aura commencé à changer. Parce que ce qui change un couple, c'est lorsqu'on applique la parole de Dieu. Amen. Dans ce passage, la parole de Dieu dit au verset 24 que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce matin, je vais vous donner 4 principes extrêmement importants qui vous sembleront peut-être, ouais, tu sais, on s'en connaît un petit peu, mais je vous demande de questionner votre propre vie pour savoir où est-ce que vous en êtes dans la compréhension de la parole de Dieu. Le premier point ce matin, le premier principe fondamental, la première qualité d'un couple en bonne santé, c'est lorsque l'homme et la femme comprennent cette expression qui dit quitter son père et sa mère. Il est important pour un couple de quitter son père et sa mère. Le mot quitter ici ne signifie pas qu'il faut ne plus parler aux parents, qu'il ne faut plus jamais les voir, il ne faut plus leur demander des conseils. Non, ça veut dire qu'il y a, à La Réunion, c'est un fléau, il y a une dépendance émotionnelle des enfants sur les parents, même après le mariage. Et les enfants continuent à demander conseil à la maman, au papa, continuellement. Mais voici le problème. Vous me direz, mais c'est pas grave, c'est bien ça. Non, le danger est lorsque le mari se sent en compétition avec la belle-mère. Quand toi, femme, tu as une décision à prendre, tu poses la question à ton mari, mais ton mari sait très bien que sa réponse n'a pas de valeur tant que tu n'as pas reçu l'approbation de ta maman, c'est qu'il y a un problème de dépendance émotionnelle et cela va tout de suite affecter ton couple. Dès l'instant où il y a une compétition dans le mariage avec une personne autre que ton épouse, ton mariage est déjà en mauvaise santé spirituelle. Et ça crée des tensions que vous n'imaginez même pas. Mais moi, j'ai la grâce avec ma femme d'écouter toutes les semaines par email, SMS, Skype, Facebook et dans mon bureau des dizaines, pas des dizaines, mais beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Pasteur Bruno, voici mon problème ». Et le nombre de maris qui se sentent brimés et qui ne se sentent pas respectés parce que la maman ou le papa de son épouse prennent plus de place qu'ils ne devraient. Et quand la parole dit ici « quitte ton père et ta mère », ils veulent dire « casse la dépendance que tu peux avoir avec tes parents ». Et j'aime mes parents, et le dit « aime ses parents, nous aimons nos parents, ils sont là pour nous, il faut toujours honorer les parents, toujours aimer les parents, écouter leurs conseils, mais dès l'instant où tu te maries, toi et ta femme, vous ne formez qu'un, vous devez apprendre à casser la dépendance émotionnelle ». La plupart des couples, même aujourd'hui, même si c'est caché, il y a des femmes qui parfois appellent leur maman en secret et qui racontent toute l'histoire de leur couple. Oui, tu sais, maman, il m'a dit ça, il m'a fait ci, il m'a fait ci. Et c'est la critique avec sa maman. On croit, non, c'est pas la critique, c'est ma maman. C'est de la critique. Ton mari passe pour le gars le plus pire de la terre. Et en faisant ça, tu ne changes pas ton couple, tu le détruis encore plus. Casser la dépendance émotionnelle qu'il pourrait avoir entre toi et tes parents. Lâche tes parents. Ton partenaire, ton mari, ta femme ne doit jamais se sentir en compétition. Et c'est extrêmement subtil. Et à La Réunion, c'est un fléau. Et je suis parfois choqué de voir que des couples se rendent même pas compte. Et ce qui est normal pour vous n'était pas normal pour la parole de Dieu. Amen. Oula, on sent qu'il y a une réflexion intérieure. C'est bien. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas contre moi que vous péchez, mais contre vous-même et contre Dieu. Il faut apprendre à mettre les choses à leur place. Ma relation avec Dieu passe avant tout. Mais ma relation avec ma femme passe en numéro 2. Vous savez quoi? J'ai appris une chose. Et c'est une grande, grande, grande révélation pour tout le monde. Ma maman n'est pas ma femme et ma femme n'est pas ma maman. Et si ta femme court tous les jours chez ses parents pour tout le temps se plaindre et tout raconter, c'est qu'il y a un problème. Grave. Si les parents se sentent encore sous pression après le mariage pour aider les enfants, c'est qu'il y a un problème. Je ne parle pas de ne pas avoir le soutien des parents pour des soucis. Bien sûr qu'on en parle, bien sûr. Je parle de cette atmosphère-là qui est subtile, où les enfants, où surtout les... Oh, la réunion, surtout le fléau, c'est les femmes. Les femmes vont voir leur maman tout le temps, pour tout et pour rien, pour tout, pour la cuisine, pour tout. Moi, je dis à ma chérie, prends-toi un bouquin de cuisine, appelle d'autres copines, mais ne garde pas ta maman ou ma maman comme seul chef de cuisine. À l'époque, c'était normal de dire, maman, un petit coup de main, c'est normal pour une femme. Mais après, elle a réussi à se dire, attends, c'est moi qui vais apprendre. Je vais prendre un peu de ma maman, de ma tante, de ma grand-mère, de ma soeur qui cuisine bien, de je sais pas qui. Et ça lui permet d'être ouverte et libre. Mais il y a des femmes qui disent, ma maman a fait comme ça, je fais comme elle. Ça paraît anodin. Non, je la respecte, je l'honore. Non, tu l'adores. Pas pareil. Entre honorer et adorer, pas pareil. Dites avec moi, le mariage est une relation exclusive. Ça veut dire que ta femme et toi, vous devez tout faire pour que cela reste pur et exclusif. Ne jamais laisser d'autres personnes, surtout les parents, prendre trop de place dans la famille. Personnellement, je vous conseille, c'est un conseil d'amis, c'est ce que vous voulez. Si vous avez un souci dans le mariage, veuillez plutôt prendre rendez-vous avec des professionnels, pasteurs ou aide en mariage et conjugal. Prenez conseil avec des gens neutres, parce qu'en général, les parents ne sont pas les meilleurs conseillers pour les couples, sauf s'ils ont réussi et appris à être détachés, à comprendre qu'ils sont totalement neutres et ils arrivent à vraiment marcher dans l'amour sans prendre le parti. En général, les parents vont prendre un tigin-gin le parti. C'est normal. Le soutien, oui. Encouragement, oui. La prière, oui. L'amour, oui. Mais si ton couple est en grande difficulté, ne pars pas voir ta maman. Ton mari se sentira en compétition avec elle. D'accord ? Avant de passer au point numéro 2, sans lever la main, combien d'entre vous ce matin, vous savez qu'au moment où je vous parle, dans votre cœur, quand votre mari vous parle, votre femme vous parle, vous avez tendance tout de suite à voir, je reçois ce que tu dis, je verrai après ce que ma mère me dit. Dans le cœur, intérieurement, j'écoute, mais je vais filtrer ça parce que mes parents vont me dire et je vais équilibrer et comparer ce que mon mari... Le pire que j'ai vu en ce moment, c'est que lorsque la femme compare son mari avec son père. Ça, c'est dangereux. Ton mari n'est pas ton père, ton père n'est pas ton mari, ton père c'est ton père, ton mari c'est ton mari. Ouh, c'est profond ça. Tu te maries avec ton mari, pas avec ton père. Tu te maries avec ton mari pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, c'est un fait. Mais tu ne peux pas comparer ton mari avec ton mari n'est pas ton père. Papa lui n'aurait pas fait comme ça, papa lui aurait dit ça, papa lui a fait ça, papa lui a fait ci. Le mari est en train de dire, ouh, votre papa là. Hein? Mais le problème c'est que, mais chérie, tu te vexes pour rien. L'homme est fier. Il est orgueilleux, l'homme. Je parle pas en bon sens du terme, d'accord, là, cette fierté de l'homme. L'homme n'a pas besoin que tu compares son papa. Entre coqs, on ne compare pas les coqs. Ah, mon père, lui, tu sais. Alors là, mon père, jamais il n'aurait fait ça. Mais bon, toi, tu sais. Hein. Tu fais quoi, là? Tu construis ton mari, tu sens qu'il est construit, là? Tout le monde dit. Le deuxième point important, et là, je vais... marcher sur les doigts de pied de certains. Relâche ton ex. Attendez, on va voir. Relâche ton ex. Mais non, pasteur, tu comprends pas. Aujourd'hui, hier, j'étais avec Steve. Aujourd'hui, je suis avec Cédric. Mais tous les trois, on est encore copains. Et je me marie avec Cédric, mais Steve, c'est mon meilleur ami. Avant, on était ensemble, puis maintenant, c'est fini, c'est cool. Non, mais il mange chez moi. Oui, parfois, il dort à la maison, bien sûr, mais c'est pas grave, on est copains. J'entends ça. Mais tu sais, Steve, il était sympa. Et on compare Steve avec Cédric. Et l'ex reste présent tous les jours. Et quand tu ne relâches pas les personnes de ton passé, c'est que tu vas toujours comparer ta relation présente avec celle de ton passé. Et ça, c'est extrêmement dangereux et ça tue le romantisme, ça tue l'amour, parce que chaque relation amoureuse est totalement différente. Il y a une sœur qui a dit « Amen », elle est pro, elle sait. Si tu ne laisses pas tomber ton passé va te faire tomber. Si tu ne laisses pas les gens de ton passé qui ont été importants pour toi, oui, certes, je ne dis pas qu'il faut les jeter comme... Non, simplement, attends, toi, dans mon passé, aujourd'hui, je sors avec, ou je me marie avec telle personne, c'est elle ma femme aujourd'hui, elle est exclusive, c'est elle et elle seule. Sans aller vers une jalousie maladive, il me semble qu'il est bon pour Élodie et pour moi de ne pas ramener nos ex dans notre relation d'aujourd'hui. Elle ne peut pas ramener Tom Cruise ni Ben Affleck, elle ne peut pas. Pour ceux qui écoutent, c'est une blague, ma femme n'est pas sortie avec Ben Affleck. Gloire à Dieu. Sinon, Wata. Vous savez, ce genre de... Sans, parfois, on le dit pas, mais on dit, ah, si seulement tu pouvais être comme lui, dans le cœur de la femme. Tu sais, empêche qu'à l'époque, là, lui, là, il était comme ça. Et pourquoi je l'ai quitté, moi? J'étais folle. Et on oublie qu'en fait, tu as quitté le gars parce qu'à l'époque, le gars avec toi, ça marchait pas. C'est pour ça que t'es parti. C'est comme si SMS à la noire, c'est SMS, appelez le 32 12 95 et vous serez, si oui ou non, vous êtes fait l'un pour l'autre. Un copain dit, si j'étais fait pour elle, je serais avec elle toi-même. Elle m'a jeté, donc je sais que je suis pas fait pour elle. Si, appelle quand même, t'as un SMS, ils te diront si tu fais l'un pour l'autre. Ben, elle m'a quitté. Ben, rappelle quand même. L'autre dit, rappelle pour savoir si toujours avec elle, si tu, ça veut toujours être avec toi. Non, ben, elle m'a quitté. Vous savez, ce genre de trucs débiles. Et on pense comme ça et on croit que c'est normal. Frère et soeur, écoutez bien ce qui se passe. Le problème avec l'Église, avec les chrétiens, c'est que nous ne pensons pas de façon pragmatique. Et nous pensons que les ex font partie du patrimoine émotionnel et donc ils ont leur place dans le présent. C'est faux. Dans ton cœur ce matin, prie pour la guérison. Ton ex, c'était une superbe histoire, canon. Je me rappelle d'un film que j'ai vu, je crois que c'était... Mon beau-père et moi, je crois que je suis pas sûr. Et le nouveau gars, Ben Stiller, débarque dans la famille avec sa femme. Et l'ex de sa femme est devenu le meilleur ami, je sais pas quoi, et dans la maison. Et l'ex de sa femme vient le voir, sa future femme. Et l'ex de sa femme, parle avec lui. Et il dit au gars, ouh, je me rappelle de ta future femme. Ouh, c'était cool entre nous avant. Je te passe pas les détails. Regarde là, je vais le tuer. Mais je vais le tuer, quoi. Et je comprends la mentalité. Et le problème, c'est que dans le couple, dans le mariage de tous les jours, si tu ne laisses pas, si tu ne laisses pas les ex dans le passé, que signifie le mot ex? Ex. Expulsé. Extériorisé. Ex. Ex quoi, ok? Tout le monde dit ex. Extérieur. Expulsé. Tu ne peux pas être la meilleure amie de ton ex et de ton mari en même temps. Ça ne marche pas comme ça. Si tu restes la meilleure amie de ton ex et de ton mari, tu seras excommunié par la force des choses. Lorsque tu... Écoute bien ça. Lorsque tu compares ta relation d'aujourd'hui avec ta relation d'hier, tu travailles en fait ta mémoire sélective parce que tu oublies tous les problèmes que tu pouvais avoir dans ton ancienne relation qui t'ont poussé à arrêter. Donc laisse derrière toi ton passé. L'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. L'herbe est verte là où tu l'arroses. Oui, il connaît lui. Cette semaine, je me suis rendu compte... Il est jardinier. Il est jardinier, les amis. Bon, cette semaine, j'ai bougé mes poubelles. Je le fais une fois tous les 3 mois. Je bougeais mes poubelles. Et en bougeant les poubelles, l'herbe qui était sous la poubelle jaune était jaune. Et l'herbe qui était sous la, poubelle verte était jaune. Même lorsque tu couvres un tout petit peu et que tu empêches le soleil et la pluie de bénir l'herbe, elle ne verdit plus. La moindre pression sur l'herbe, le moindre bout de carton pendant quelques jours et l'herbe est jaune. L'herbe est verte là où je l'arrose. Ça va tout le monde? Troisième point rapidement. Aussi important, c'est peut-être bizarre mais c'est important. Lâche les lieux ou relâche les lieux et les souvenirs de tout ton passé. Premièrement, c'était laisse tes parents de côté. Tes parents sont cool, d'accord, mais libère tes parents. Ne laisse pas tes parents dans le couple. Deuxième chose, c'est ne laisse pas tes ex dans le couple. Pas forcément de façon physique, mais de façon émotionnelle. Tu me suis? D'ailleurs, il y a des gens, il y a des couples qui habitent juste à côté de leurs parents. Et pourtant, ils ne sont pas du tout liés dans les émotions. Tu as des couples, le couple habite au Canada, la maman à La Réunion, et pourtant, tous les soirs, matin, midi et soir, la fille appelle sa maman tous les jours, et c'est maman qui décide ma vie alors que je suis au Canada. Là, c'est pas bon. Le deuxième choix, c'est le couple ex. Le gars est plus là, mais on s'écrit des lettres, un petit SMS. Tu sais, je pense à toi, piouk, XXX. C'est juste un copain. Il n'y a pas juste un copain. Ça vous va? Si vous êtes des ex dans l'église, c'est mal pour vous. Vous êtes dans l'église. Tout le monde me suit, c'est bon? Troisième point, tout le monde, troisième point. Lâche tes souvenirs. Écoute bien ça, c'est important. Ça paraît simple, c'est très profond. Lâche tes souvenirs du passé. Lâche les lieux auxquels tu attaches une importance capitale par rapport au passé. Par exemple, chérie, on peut aller manger à tel restaurant? C'est là-bas que mon ex m'y a emmené. Non, on va pas aller, on va changer de restaurant, on part dans un nouveau restaurant. Il y a des gars qui ont vécu la guerre, par exemple. La guerre dans leur premier mariage, la guerre dans du Vietnam, la guerre de Laos, je sais pas. D'autres ont vécu des moments difficiles. Écoute bien ça, on a vécu une enfance difficile, on a vécu un couple difficile, et on veut absolument que notre nouvelle compagne, notre femme avec qui on veut une nouvelle vie, vive et expérimente toutes les douleurs que moi j'ai vécues dans mon passé. Je veux ramener mon passé et mes lieux de douleur dans mon présent. Mais tu sais, ma chérie, maintenant tu es mariée, mais moi, dans mon passé, j'ai souffert. Tu comprends pas, j'ai souffert. La pauvre femme est là. Ben, chérie, je suis là pour toi. Non, tu peux pas comprendre. Et là, tu pourris la vie de la femme qui vient de débarquer dans ta vie, qui veut t'aider parce que tu veux absolument qu'elle vive ton passé, qui est ton passé et pas le sien. C'est extrêmement important. Parce que souvent, le gars fait la guerre, il veut que sa femme revive les expériences de la guerre à ses côtés. Elle n'est pas appelée pour ça, elle est appelée pour célébrer ton présent et ton futur, et pas pour mourir avec le poids de ton passé. Et ça, c'est un choix personnel que je dois dire, Seigneur, la femme que tu me donnes, ou le mari que tu me donnes, n'a pas le droit de vivre ou de survivre à cause de mes problèmes. Je dois, moi, être sûr, être carré, délivré, lavé, pour que je puisse être une femme ou un homme béni, pour un mariage béni. Et c'est là où ça me dérange avec l'Église. L'Église, je parle avec un grand E, on a enlevé de l'Église la puissance de Dieu. Plusieurs églises dispensent de cours pour aide au mariage, aide émotionnelle, aide psychologique. D'accord, je comprends que c'est important, mais frères et sœurs, quand tu viens à Jésus-Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que le sang de l'agneau me lave de tout péché. Tu n'es plus dans ton passé, tu es dans ton présent. Ne ramène pas ton passé dans ton présent, sinon ton présent va être dépassé. Libère ton passé. Laisse tes parents dehors du couple. Honore-les, respecte-les, aime-les. Mais ton mari et toi, pas de compétition avec tes parents. Deuxième chose, ne laisse pas tes ex dans ton cœur. Fais tout pour que Dieu enlève ce côté malsain de l'ex qui traîne, l'extérieur. Troisième chose, ne ramène pas les lieux ou les souvenirs du passé. Comment on fait? J'arrive pas. Si tu y arrives, tout le monde peut y arriver. J'ai fait une étude. Et j'ai vérifié un truc important. Savez-vous que lorsque deux personnes viennent voir un psychologue avec exactement les mêmes problèmes, il y en a une qui s'en sort, l'autre pas. Est-ce la faute du psychologue? Non, c'est le même psychologue et les mêmes problèmes. C'est la réaction, la façon de réagir de l'un qui fait toute la différence. Ta façon d'aborder le problème fait toute la différence. Ne laisse pas les lieux de ton passé. L'image que je veux que vous puissiez retenir ce matin, c'est ne fais pas revivre ton enfer à la personne de ton présent. Ta femme ou ton mari ne mérite pas de vivre ce que tu as vécu. Et parce que tu as vécu des choses difficiles, fais tout pour que cela n'arrive plus jamais. Et si vous et moi, nous commençons à penser comme ça, je suis conscient qu'il y a dans ce lieu ce matin des hommes qui ont souffert, peut-être qui ont été abusés, d'autres ont vécu un divorce, je comprends ça. Mais tu ne pourras pas changer ton cœur, tu ne pourras pas enlever la douleur en te repassant le passé. Ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Pire, ça va te détruire. Non, quand tu comprends que Dieu t'aime, tu laisses ton passé derrière. On a le choix entre être dépressif à cause du passé ou être en feu pour le futur. Parce que j'écris ce matin, grâce à ma femme et on écoutait un homme de Dieu qui s'appelle Rick Godwin, il disait, ton mariage, c'est une vérité vraie. Ton mariage aura lui-même assez de problèmes avec le présent, pas la peine de ramener ceux du passé. C'est vachement sage. Je me suis rendu compte dernièrement, en écoutant les jeunes mariés qui sont venus me voir, Steph, Cédric et moi, c'est bon, on est prêt. Ah bon? Ouais, on est prêt. Vous avez parlé de ça? Ah non, et ça? Ah non, et ça? Ah non. Combien d'enfants tu veux? Je sais pas, ça dépend d'elle. Ouh là 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 là. Si tu commences comme ça, c'est fini. Qui gère les finances? Nous, together, quoi, ensemble, dans l'unité. Comment tu fais? Je sais pas. Êtes-vous pour le préservatif ou contre le préservatif? C'est quoi ça? Ouais, non, c'est dis pas ça, mais... Attends, et tes parents, ont-ils une influence ou pas? Ah oui, sur le moment, alors, ça commence comme ça, c'est clair, il faut du boulot. Et là, ils me disent, on est prêt. Finalement, vous n'êtes pas prêt, on va prendre quelques mois, on va travailler dessus. Les gens sont bien souvent inconscients du poids excédentaire de bagages qu'ils amènent avec eux dans leur nouvelle relation. C'est bien ça. C'est comme si tu débarques dans ta nouvelle relation avec tous les bagages du passé et tu veux que ton épouse t'aide à porter les bagages du présent, les bagages du futur et ceux du passé qui ne sont même pas les siens. Et le problème, c'est que si tu ne gères pas ces problèmes-là maintenant, si tu ne balances pas les bagages du passé, bam, un grand coup de pied dedans pour être bien en paix pour la nouvelle relation, c'est que tu n'es pas prêt ou prête pour commencer une relation. C'est pour cela que dans l'Église, malheureusement, savez-vous quel est le pourcentage de divorces dans le monde? Quelle idée? 52%. Quel est le pourcentage de divorces dans l'Église? 52%. Pourtant, on devrait jamais avoir le même pourcentage. C'est parce qu'à la base, on prie, on chante, on adore, on loue, on prie, ah super, on est content, mais on garde les bagages du passé, on garde les ex dans le cœur, on garde les parents dans le couple, on garde tout ce qu'il ne faut pas garder, on est tout le temps confus et après le couple ne fonctionne pas en disant c'est la faute de Dieu, Dieu ne nous aime pas. Mais Dieu vous aime, Dieu veut que vous puissiez réussir. Il veut que le « waouh, c'est maintenant » reste « waouh, c'est tout le temps ». Ne ratez pas le troisième message. Ça va chauffer. Ne laisse pas les gens qui t'ont fait du mal dans ton passé. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ne laisse pas les gens qui t'ont fait du mal dans ton passé continuer à te faire du mal dans ton présent. Si tu fais cela, tu donnes à quelqu'un d'autre le contrôle sur ta vie. Ne laisse pas ceux qui t'ont abusé ou détruit faire de toi une personne dysfonctionnelle aujourd'hui. Tant que tu laisses les personnes de ton passé continuer à te faire du mal, c'est un choix. Tant que tu le laisses faire, c'est eux qui contrôlent ta vie et celle de ton mariage et celle de ta famille. Si tes parents t'influencent trop en rapport avec ton mari, c'est tes parents qui contrôlent ton mariage et pas toi et ton mari avec le Seigneur. On ne peut pas dire « je marie avec Francis et papa et maman ». Je me suis marié avec Géraldine et papa et maman et son frère et sa sœur, son cousin, sa grand-mère. Le pauvre mari débarque, il fait « ouh là là ». Premier soir de noces, toute la famille est là. Il y a un problème. Vous rigolez, c'est arrivé. Il y a une jeune fille qui dit à son mari « chérie, je veux me marier avec toi à une condition ». « Ben oui ». Eh bien, c'est que notre nuit de noces se fasse dans ma maison, là où j'ai grandi. Parce que je veux vraiment que mes parents comprennent que je suis heureuse avec toi. Oh là là, le pauvre gars. Moi, j'aurais dit au gars, marie pas. Cours. Ah, pasteur, tu es dur. Non, je vous aime trop. La femme qui te dit, nuit de noces chez elle, l'a toujours vécu. Cours. Change de pays. Conseil à ceux qui veulent se marier. Deal, c'est-à-dire occupe-toi de ton excédent de bagages avant de te marier ou te remarier. Extrêmement important. Sinon, tu vas toujours à la catastrophe. Il y a un temps pour tout. Vous savez, c'est normal d'avoir un deuil. Mon grand-père est parti rejoindre le Seigneur hier. Je suis maintenant même en deuil. Je suis endeuillé. Sa présence me manque. Sa joie me manque, sa façon d'être me manque. Mais je ne peux pas laisser cette saison durer ad aeternum, comprenez, pour l'éternité. Il y a une saison pour tout, dit Ecclésiaste chapitre 3. Un temps pour pleurer, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour souffrir d'une relation détruite. Il y a un temps pour ça, mais après, il faut arrêter un petit peu. Il y a des gens qui traînent pendant 20 ans le même problème, acceptent que leur vie soit bousillée par un gars qui a fait une bêtise il y a 20 ans. Mais laisse-le tous tranquilles et change ta vie. Non, j'aime pas ce qu'il m'a fait. Alors, toute ma vie, je vais mourir à cause de lui. Voilà. T'es contente? Non, je suis pas contente. Mais c'est plus fort que moi. Je vais mourir à cause de lui dans l'amertume. Et voilà. Ah, pasteur, toi, t'as pas souffert. Ah ouais. Ouais, j'ai pas souffert. Ouais, ta femme, toi, mais ta femme, vous êtes cool. Hein? Ah ouais. Allez parler à Elodie pour son passé. Son papa est une star. C'est un bon gars aujourd'hui. J'ai parlé à mon beau-frère, Cyril, s'il écoute ce message, qui sait que je pense à lui. Et Cyril me disait quelques mois de cela, il disait, hey, Alain, avant là, Alain, parlant de mon beau-père, parlant du père d'Elodie, c'était un sirop ce moment, je ne pouvais pas le sentir. Mais maintenant, c'est un super gars, c'est l'un des seuls gars à qui je ferai confiance. Comme ça. Et ça m'encourage, parce qu'il y a 10 ans en arrière, c'est clair que 15 ans en arrière, Alain Manda, c'était Al Capone. Mais il y a un temps pour tout. Gilles aurait pu très bien dire, Elodie aurait pu très bien dire, ouais, il y en a marre, papa m'a fait souffrir, c'est fini. Non ! Ils ont choisi de croire que le Dieu qu'ils servent est capable de changer des cœurs. D'abord le leur, ensuite le sien. Ah, Seigneur, d'abord tu changes son cœur, après le mien. Ça fait rire, mais les gars, ce matin, beaucoup de mariages sont en difficulté. Déjà que ces trois points-là sont. Mes parents sont dans mon couple, mon ex dans mon cœur, mes souvenirs du passé sont dans ma tête. Quatrième point, je termine. Regarde à ce que tu as et non pas à ce que tu n'as plus. D'accord ? Le quatrième point, c'est abandonne la condamnation, l'esprit de culpabilité. ceux et celles qui se sentent coupables. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'es pas fier. Ça se trouve, il y a des choses que tu as faites que personne ne connaît. Un jour, une femme est venue me voir et m'a dit, Bruno, il y a 20 ans de cela, j'ai trompé mon mari. Maintenant, je suis chrétienne. Que dois-je faire ? Rien. Attends, rien, ne fonce pas. Si, je vais tout lui dire. Non, attends. Sois patiente. Non, pour la vérité, je vais lui dire, ça fait 20 ans, il y a prescription, attends, tu n'étais pas chrétienne, attends. Non, bam, trop tard. Il y a des choses que Dieu nous a pardonnées, pas la peine de les ramener sur le tapis. Là, je vais vous choquer parce que trop souvent, on pense qu'il faut tout dire, même ce que tu as fait quand tu avais 9 ans et demi. J'ai volé un bonbon, et bien alors. Il y a des choses qu'il faut savoir attendre. Peut-être que si ton couple, aujourd'hui, le dit, moi, on est tellement franc, là, tellement vrai, que je n'aurais aucun mal à lui dire ce que j'ai fait dans le passé. Mais elle sait déjà toute chose. Imaginons. Imaginons qu'en il y a 10 ans, 15 ans de cela, avant d'être chrétien, j'avais une relation avec une fille. Ok ? Et quand on est marié, on a deux petites filles, on est pasteur, je n'étais pas du tout chrétien, je n'étais pas là avec ça. Je vais les ramener, chérie, tu sais, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Attends, ça se trouve, c'est pas important pour elle pour l'instant. Oui, non. Je vais devoir dire, est-ce que ce que je veux partager va construire ou va détruire? J'aimerais libérer des hommes et des femmes dans ce lieu ce matin. Si vous avez péché avant d'être chrétien, si vous avez demandé pardon à Dieu et que ce péché est arrêté dans votre vie aujourd'hui, pas la peine d'y revenir. La parole de Dieu elle-même dit que Dieu oublie, efface nos transgressions. Et transgressions, regarde, c'est quoi effacer? Quand tu effaces, c'est que tu effaces. Tu prends un tableau blanc, tu écris plein de trucs dessus et tu effaces. Impossible de relire ce qui s'est passé. C'est terminé. Et toi, le gars va dire, t'es, j'avais écrit ça. Je vais réécrire ce que j'ai fait bien en évidence pour qu'on puisse me gâcher ma vie. Regarde, on pense comme ça, Seigneur, tu sais, pardonne-moi, Seigneur, et puis on balance toi la femme. Ne dis pas ça. Et frère, peut-être vous choquez, mais moi, en tant que pasteur, je prône la liberté, je prône aussi qu'on est pur, je prône qu'on soit super saint, je prône qu'on soit vrai l'un vers l'autre, mais je prône qu'on soit aussi sage. Ne sois pas, ne vis pas dans la condamnation ni la culpabilité. Il y a des couples, ce matin, dans ce lieu, vous souffrez parce que vous avez fait une erreur il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, 9 ans, et ça reste entre vous. Pardonne-toi et pardonne à l'autre si tu es au courant de ce qui s'est passé. Sinon, lis sur mes lèvres, catastrophe. Et tu auras beau prier, jeûner, faire ce que tu veux, faire une neuvaine, douzaine, treizaine, ça ne changera rien. Sauf si tu acceptes de pardonner. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, la Bible, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est bon. Quatrième point, c'est quoi ? Abandonne les péchés du passé. Arrête de te flageller. Arrête de te frapper. Arrête de dire « je ne mérite pas ». Tu mérites d'être heureux, d'être heureuse. Tu mérites d'être heureux, d'être heureuse. Et voici une très grosse remarque pour chacun de vous ce matin. Heureux plus heureux égale heureux. Malheureux plus heureux égale malheureux. Si un d'entre vous est malheureux, le couple est malheureux. Il faut que les deux soient heureux pour que le couple soit heureux. Et quand le couple est heureux, la famille est heureuse. Rien n'est pire que d'avoir des parents qui se disputent tous les jours. Les enfants sont brisés, cassés, détruits. Ça laisse des traces indélébiles. Aucun mariage ne subsiste sans pardon. Aucun mariage ne subsiste sans se pardonner continuellement, quotidiennement et à chaque seconde. Et je dirais, même si tu as l'impression que le mari ou la femme ne comprend pas, ce n'est pas en ne pardonnant pas que tu vas changer les choses. Au contraire, quand tu pardonnes, même s'il poursuit, tu pardonnes, tu ne refuses ce qu'il fait. Tu n'approuves pas ce qu'il fait, mais tu pardonnes. Vous savez, c'est cette image que j'aime bien, je finirai là-dessus ce matin. C'est le pardon, c'est comme si tu prenais un chiffon imbibé d'alcool. Quelqu'un allume le feu au chiffon. Le feu prend dans le chiffon, monte à ta main. Ça commence à chauffer ta main. et tu gardes le chiffon, tu fais ah ça brûle, ah ça brûle, ça brûle, tu sais, c'est mal, ça brûle quand même, lâche le chiffon, non ça brûle, je m'accorde, lâche le chiffon, ah ça brûle, tu lâches le chiffon à la fin, la main est brûlée, carbonisée, purée, il m'a brûlé la main le chiffon, bah oui, il fallait lâcher avant. Le pardon, c'est quand tu t'accroches à quelque chose qui te fait mal, et ben tu augmentes la douleur. En ne pardonnant pas, tu augmentes la douleur. Si le chiffon est en feu, lâche le chiffon. Laisse tomber. Passe à autre chose. Ça vous va? Quatre choses ce matin. Premièrement, relâche tes parents. Coupe le cordon ombilical émotionnel. Si vous êtes parent, dans ce lieu, vous êtes parent et que votre fille vous appelle tous les jours pour tout n'importe quoi, aidez-la progressivement à arrêter de le faire. Décrochez pas le téléphone. Laisse sonner pendant 24 heures. Non, c'est pas ça. Et l'image, c'est quoi? C'est que si tes parents ce matin, choisis, décide, oh, j'ai un petit problème avec ma fille ou mon fils, je sens que là, trop attaché. On le sent, c'est pas une question de. On sent. Deuxième chose, ton ex, dis au revoir à ton ex. Tout le monde est d'accord? Non? Dis au revoir à tes parents, dis au revoir à ton ex, façon de parler, c'est une image. Laisse-la leur place, mais cultive ta relation. Cultive ton Éden, cultive ton jardin, cultive ton paradis dans ta maison. Arrose ton herbe là où tu te trouves. Cultive ton cœur, ne laisse pas la condamnation. Frère, ce matin, vous êtes tous pardonnés si vous avez demandé pardon à Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème. Jésus est plus grand que tes péchés. Il est plus fort, il est meilleur que tout ce que tu peux croire ou imaginer. Libère la personne ton passé. Et ce matin, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui ont besoin d'aide. Vous savez, j'écoutais le témoignage de cet homme-là, un pasteur, qui pendant 13 semaines est allé voir un conseiller en mariage. Je le cite, il dit, j'aurais préféré faire un examen pour la prostate tous les jours au lieu d'aller à ces rendez-vous-là. Parce qu'il a fallu que je m'ouvre. Il fallait que moi, l'homme, je puisse dire, ok, j'avoue mes problèmes, j'avoue mes craintes, mes doutes, mes soucis, mes défauts. J'avoue que okay, je galère là-dessus, j'avoue que j'ai un problème. Marie et femme, est-ce que vous prenez le temps souvent de dire à votre femme, chérie, que penses-tu de moi? Même et surtout si ça fait mal. Et chérie, je pense qu'il faut que je change là. Et puis après, tu vois, il y a des fois la femme est un petit peu trop exigeante, à mon goût. Et des fois, les femmes disent, tu sais, si tu prends 40 kilos de plus, si tu mesures 1m82, l'autre 1m34, si tu es blond, l'autre brun, si... là, le gars ne peut rien faire. Et, ok, mais il y a des fois, on demande trop. Et des fois, on est trop dans la chair. Donc, demandez à Dieu le caractère de Dieu dans la personne. Parce que vous vous aimez, on est tous différents. Tu me suis ce matin? Mais il y a un vrai fléau à La Réunion. Il y a un vrai fléau à La Réunion. Où les couples ont des masques, où les mariages ne sont pas solides, les enfants souffrent, les familles sont mélangées, il n'y a rien qui se construit. Je veux ce matin vous dire, stop. Il faut s'arrêter là à Hosanna, il faut qu'on s'arrête quelques semaines et qu'on construise nos mariages, nos futurs mariages, nos relations, nos enfants et nos familles. Et dans la relation, dans les messages sur la famille, vous allez voir comment nous les parents, on peut vraiment aider d'une façon efficace les enfants. Je ne dis pas qu'il faut plus rien faire, je dis qu'il faut juste couper cette dépendance émotionnelle. Amen. Alors que tout le monde baisse la tête, fermez les yeux pour moi. Les yeux fermés, la tête baissée ce matin. Est-ce que vous êtes dans ce lieu ce matin et vous vous rendez compte que ce premier message là qui est général mais il y a quatre principes extrêmement importants. Est-ce que vous dites ok c'est moi, j'ai vraiment du mal, mon couple souffre à cause de l'une de ces raisons ou deux de ces raisons, peut-être toutes ces raisons, peut-être que tu sens encore coupable dans ton passé, tu as du mal à pardonner à ton ex-mari ou à ton ex-femme ou toi-même, tu ne pardonnes pas ce que tu as fait. Peut-être qu'il y a un péché secret dans ton couple depuis 25 ans, tu ne l'as jamais dit et tu as peur que un jour ça surgisse. Laisse partir et Dieu te guidera. S'il faut que tu le partages, on t'aidera. Mais ce n'est pas forcé au départ, ce n'est pas obligé. Sois sûr d'être guidé et conduit par le Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager ce matin. Est-ce qu'il y a dans ce lieu, alors que personne ne regarde ni à gauche ni à droite? Je ne vais pas faire un appel devant parce que je ne veux pas gêner les couples. Donc soyez sans crainte, que personne ne regarde ni à gauche ni à droite, s'il vous plaît. Mais si tu es dans ce lieu ce matin et que tu penses que ce message te concerne, tu penses que un des quatre principes fondamentaux ont été violés dans ta vie. Alors lève ta main là où tu es. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Personne ne regarde. Il n'y a que moi qui regarde. Je peux voir un peu comment tu te sens. Si tu penses que dans ton cœur maintenant, tu sais que un de ces quatre principes ne sont pas en place. Ok, merci. Merci vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez pas baisser les mains. Ce soir, merci bonheur les supervisions. Merci pour tout. Ce soir, on va. C'est mon frère, ça peut pas enlever la tête. Merci. Ce soir, on va prier pour la guérison des cœurs. Ce soir, on va prier pour que l'atmosphère puisse guérir les couples. Ce soir, ce que je ferai un ou deux appels. Pour ne pas gêner les couples, je vous invite à venir ce soir devant, on va prier ensemble, afin que vous puissiez réellement, mari et femme, si possible, chercher le cœur de Dieu. Et si vous êtes célibataire, je prie pour que vous puissiez trouver la bonne personne, celle qui sera le cœur de Dieu. Ce soir, on va passer du temps, on va prêcher très très court, et on aura beaucoup de temps dans l'adoration, la louange, et surtout la prière. On va prier, on va prendre du temps pour prier pour chacun. On va prendre du temps pour vraiment laisser le Saint-Esprit vous toucher votre cœur et attendrir le cœur de Pierre si c'est le cas. Amen. Mais je m'engage avec Elodie et l'équipe pastorale à tout faire pour que votre mariage et votre famille soient une famille bénie. Pas dans 5 ans, cette année. Et c'est faisable. C'est faisable. C'est réalisable. Parce qu'on vous a toujours dit, non, c'est comme ça, c'est la galère. Pas du tout. Vous pouvez réussir. Et nous allons réussir. Il y a trop de personnes dans ce lieu ce matin, vous avez du mal à pardonner. Pardonnez. Laissez partir. Laisse tomber. Ça fait 10 ans que tu te raccroches à cette douleur. Ça fait 2 ans que tu meurs à petit feu. Ça ne changera rien. Ça n'a rien changé. Ce n'est pas parce que tu es en colère avec la personne qu'elle va changer. Par contre, toi, si tu pardonnes, tu changeras. Amen. Donc, j'espère vous avoir mis en appétit pour ce qui suit. On va parler de finances, on va parler de sexe dans le mariage, on va parler de problèmes spirituels, on va parler d'abus spirituels, comment savoir s'il y a un abus dans le couple, est-ce que ma femme abuse de moi dans l'esprit ou mon mari, comment parler, communication, comment se dire les choses. Mais on va vraiment creuser ça. On va discuter ensemble comme une grande famille. À la fin de la série sur le mariage et sur la famille, vous serez, à mon humble avis, vraiment bénis. Et vous aurez des principes qui seront inscrits sur nos feuilles, qui seront sur le site internet. Et on aura des discussions dès mardi où il y aura un article sur le mariage. Et pendant tout le mois de mars, tous les articles du site internet et les messages du dimanche seront sur le mariage. Et si vous avez des questions à me poser, envoyez-moi un email. Et si par exemple c'est confidentiel et si c'est anonyme, ce soir par exemple, si vous le souhaitez, écrivez la question sur un bout de papier, fermez le papier, mettez dans une enveloppe et mettez l'enveloppe dans le panier à offrande. Ça vous va? Et moi je récupérerai la question et je vais lire à la maison, je prierai dessus et je verrai si pendant les messages je peux répondre à des questions-réponses. Ça vous dit? Oui ou non? L'idée, c'est que vous puissiez changer radicalement de vie. On arrête de jouer, on arrête de faire semblant. On arrête de faire croire que les couples vont bien s'ils vont mal. Nous arrêtons la vie d'hypocrite. Si tu veux être un hypocrite, va voir ailleurs. Je suis sérieux. Si tu veux être vrai, restons ensemble. Parce que si l'Église passe par là en 2011... En 2012, on explose. Nous cherchons une salle de 1000 places. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que 500 places, c'est trop petit. Et c'est que le début. Parce que Dieu est en train de faire grandir l'Église de l'intérieur.